France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences. Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la marche des sciences. À l'occasion de notre semaine spéciale Nouvelle Révolution Génétique sur nos antennes dans la tranche Culture Science de 16h à 17h et qui a donc débuté depuis lundi, nous vous proposons pour le meilleur et pour le pire une histoire de la génétique humaine, du mendélisme à l'ère post-génomique, 150 ans d'aventure mouvementée de la génétique. Science aux enjeux multiples, biologiques, philosophiques, éthiques, la génétique a connu au fil du temps un essor fulgurant et ouvre aujourd'hui des perspectives médicales pleines de promesses, mais suscite aussi des inquiétudes. En tant que discipline scientifique, elle apparaît au XXe siècle, même si son histoire nous en livre des traces dès le XIXe siècle avec les recherches de Gregor Mendel et ses célèbres expériences horticoles. Son évolution a été influencée par des contextes sociaux et politiques spécifiques et appliquée à l'humain, la génétique, d'abord présentée comme un sésame pour améliorer l'espèce humaine, n'eut de cesse d'être associée à l'eugénisme. Et même si aujourd'hui, les progrès de la médecine et de la recherche en matière de connaissance des gènes révolutionnent la science, l'ombre de l'eugénisme ne plane-t-elle pas toujours à ses côtés? Réponse aujourd'hui dans la marche des sciences sur France Culture avec en duplex des studios de la RTBF à Bruxelles, Laurence Perbal. Elle est docteure en philosophie des sciences, chercheure consultante au Centre de recherche interdisciplinaire en bioéthique de l'Université libre de Bruxelles et auteure du livre Une brève histoire de la génétique, un livre paru chez Hermann. Et à nos côtés dans le studio, Michel Morange, biologiste, professeur à l'université Pierre et Marie Curie et à l'école normale supérieure. Il est directeur du centre Cavaillès d'histoire et de philosophie des sciences de l'UNS et également membre de la République des Savoirs. Et on nommera, on citera un de vos livres, Michel Morange, Une histoire de la biologie, tout récemment édité dans la collection Point Seuil. Et puis comme d'habitude, cette première partie d'émission sera émaillée d'archives sonores de l'INA grâce à Anaï Morales. Et puis en seconde partie d'émission, vers 16h45, toujours dans cette thématique de la génétique, nous accueillerons le chercheur Régis De Bruyne, paléogénéticien du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, au service systématique moléculaire. Et avec lui, nous plongerons au cœur des recherches en matière d'ADN fossile et des espoirs de ressusciter des espèces disparues, tout en se posant quand même la question du bien fondé d'une telle démarche scientifique. Mais tout de suite, la génétique de Mendel à aujourd'hui.
Bien, Mendel, vous savez, oui, enfin, on n'a pas rappelé l'œuvre de Mendel, qui est colossale, qui est peut-être une des œuvres, elle est toute petite, elle tient une trentaine de pages, vous voyez, c'est 50 pages, oui. Tient 30 pages. Et alors, c'est une œuvre qui a changé toute l'optique, si on peut dire, de la science de l'hérédité, il a fondé la science de l'hérédité, il n'est pas un précurseur, il est un créateur, il a fondé, et tout seul, vraiment, ça, on peut vraiment dire que Mendel a créé tout seul cette science de l'hérédité, car il y a, sauf ce Coladon, dont je vous parlais tout à l'heure, et dont il ne connaissait pas l'œuvre, d'ailleurs, Coladon avait travaillé sur les souris et Mendel n'a pas connu ses travaux. Eh bien, Mendel est un initiateur, un créateur extraordinaire. D'ailleurs, tout ce qu'il a écrit reste encore actuel. Toute la génétique d'aujourd'hui, sauf la biologie moléculaire, bien entendu, est contenue dans ces 30 pages.
Bonjour Laurence Perbal.
Bonjour.
Bonjour Michel Morange.
Bonjour.
Alors on vient d'entendre la voix de Jean Roustan dans une émission datée du 11 janvier 1973, diffusée sur France Culture, et donc qui parlait de ce Gregor Mendel, moine tchèque, et de ses expériences horticoles, parce que on peut dire, c'est vrai que l'histoire fait remonter la génétique comme science au XXe siècle, mais le milieu du XIXe siècle a vu déjà les prémices et il y a ces fameuses lois de Mendel. Qu'est-ce qu'elles montrent, Michel Mange?
Ben, les lois de Mendel montraient que cette transmission des caractères chez les plantes, en l'occurrence chez le pois, obéissait à des lois. C'était le principal résultat et, par exemple, des lois selon lesquelles des caractères différents étaient transmis de manière indépendante. Je serais peut-être pas tout à fait d'accord avec Jean Rostand. Je dirais que Mendel a apporté des choses très importantes, justement cette idée de loi de l'hérédité. En même temps, il n'a pas conçu tout à fait clairement la notion de gène qui sera si importante dans la génétique du XXe siècle. Ça s'est fait par étapes, probablement, un peu plus qu'il ne le dit.
Et on va les raconter, ces étapes, justement. Laurence Perbal, donc les lois de Mendel, on se rend compte qu'au milieu du XIXe siècle, Gregor Mendel donc, publie un article, il y a une totale indifférence, et finalement, c'est l'intérêt d'abord des agriculteurs, peut-être, qui va permettre à la génétique son développement.
Oui, tout à fait. On se rend compte, en particulier aux États-Unis, au début du XXe siècle, qu'il faut améliorer les fruits, les céréales. Il y a une volonté vraiment de créer de nouvelles espèces plus résistantes au froid, à la chaleur, aux insectes. Et ils vont vraiment exploiter les lois de Mendel à ce niveau-là, au niveau agricole. Et vraiment, les États-Unis, le département de l'agriculture américain va créer des centres agricoles dans de nombreux États américains dans cette optique.
Vous parlez, Laurence Perbal, donc des Américains. Il faut quand même effectivement préciser que la génétique pose les bases sur le continent européen. Ensuite, ce sera développé dans les pays anglo-saxons. Mais finalement, il y a Gregor Mendel, il y a aussi notamment un biologiste médecin allemand, August Weismann. Donc ce travail se fait d'abord chez nous, j'ai envie de dire.
Oui, tout à fait. L'aspect théorique va vraiment se faire en Europe. On voit des naissances de la génétique dans différentes zones géographiques, sans forcément toujours de communication entre elles, mais d'un point de vue concret, et finalement c'est par cette volonté des agronomes d'utiliser concrètement les lois de Mendel que la génétique va véritablement exploser aux États-Unis dans ce cas-là, où les politiques étaient très interventionnistes et avec une volonté d'exportation, notamment des céréales ou des fruits.
Alors Michel Morange, on se rend compte que donc ce sont ces contextes sociaux et politiques qui expliquent le développement de la génétique, donc notamment et spécialement dans ces pays anglo-saxons, donc aux États-Unis et Grande-Bretagne, grâce aux politiques interventionnistes de l'époque. Dans une ère progressiste, bien sûr, il faut stimuler cette production agricole, d'où l'importance des agronomes, les réformes agricoles qui posent les bases du développement académique de la génétique. Et donc, deux façons quand même différentes d'approcher, on peut dire, le terrain. Aux États-Unis, il y a la loi Hatch, voté en 1887. En tout cas, on n'est pas dans les mêmes préoccupations, on peut dire.
Pas tout à fait, mais en France, on observe aussi un intérêt assez fort de certaines firmes agricoles, comme Villemorin, qui est encore bien connue, et qui va participer très étroitement à l'organisation des premiers congrès de génétique. Donc même s'il n'y a pas, comme le disait Laurence Perbal, ces universités, cet esprit de progrès progressiste qu'on a aux États-Unis, on a néanmoins en France aussi un intérêt des milieux spécialisés pour la nouvelle science.
Laurence Perbal, dites-nous concrètement, est-ce que d'emblée, entre les États-Unis et l'Angleterre, dans ces prémices, il y a quand même des différences de positionnement ?
Oui, tout à fait. Aux États-Unis, c'est donc la génétique mendélienne qui prend vraiment beaucoup d'ampleur. Tandis qu'en Angleterre, on a vraiment deux écoles différentes. On a l'école mendélienne, mais on a également l'école de biométrie. Et ces deux types de génétique s'intéressent à des caractères différents. La génétique mendélienne s'intéresse davantage aux traits discrets, donc la couleur des yeux par exemple, ou la couleur de la peau, donc avec une variation qui est discontinue, tandis que l'école biométrique s'intéresse davantage aux traits continus, qui varient de façon continue, comme la taille notamment. Et donc ils ont des approches vraiment différentes de la génétique, en ne s'intéressant pas au même caractère, en ne développant pas les mêmes approches méthodologiques.
Et donc, de là vont découler les premières études sur les maladies qui touchent l'homme ?
Oui, notamment parce que, effectivement, des traits qui pourraient bien se prêter à une interprétation mendélienne de l'hérédité sont les maladies humaines, puisque finalement, on est malade ou on ne l'est pas, si on le voit ça de façon simpliste. Et donc, le rapprochement avec la médecine et l'intérêt pour les maladies humaines ont été vraiment un moteur de l'étude de la génétique, notamment mendélienne. Et donc les chercheurs, les généticiens anglais ont beaucoup communiqué avec les médecins pour essayer de trouver des maladies qui pouvaient rentrer finalement dans cette interprétation mendélienne de l'hérédité.
Et donc on va s'intéresser à l'hémophilie, au daltonisme, à la myopathie de Duchenne.
Voilà, qui sont des maladies où on rencontre vraiment une répartition statistique de génération en génération qui correspond aux fréquences attendues par la génétique mendélienne.
Michel Morange, il y a un personnage important côté anglais, un certain William Bateson. Il va participer à l'élaboration de ce nouveau champ lexical qui est à l'origine de la génétique.
Oui, et c'est lui qui introduit le terme de génétique pour désigner cette nouvelle science. Pas le terme de gène, il faudra encore une autre intervention pour de Johansen, un chercheur d'origine danoise, pour que le terme gène soit lui-même introduit en 1909, quelques années après.
Oui, 4 ans après, puisque le terme génétique proposé par Bateson l'est proposé donc en 1905. Alors on va s'intéresser tout de suite et sans plus attendre à ce lien avec l'eugénisme justement et se poser la question de à partir de quand est-ce que génétique et eugénisme vont commencer à avancer ensemble. Je vous propose d'écouter un premier document sonore, extrait des fonds de l'INA par Anaï Morales. Il s'agit d'Axel Kahn dans l'émission Questions d'époque d'Éliane Contini sur France Culture. C'était le 16 novembre 1996. Il donne une définition de l'eugénisme.
Le mot eugénisme est la suite tout à fait logique, quoi qu'il s'agisse d'une certaine dérive, du darwinisme. Et celui qui a inventé le mot était un cousin de Charles Darwin qui s'appelait Galton, qui dans un livre célèbre en 1885 a publié par conséquent l'eugénisme, qui était l'ensemble des moyens dont le but était d'améliorer la qualité des races humaines. À ce moment-là, Galton ne connaissait pas la génétique. Lorsque la génétique a été redécouverte, elle a été découverte par le moine Mendel, puis elle a été redécouverte au début du siècle, lorsque la génétique a été redécouverte, la définition de l'eugénisme a progressé. Et l'eugénisme, dans une des lectures, pas toutes les lectures, mais dans une des lectures, c'est devenu les moyens d'améliorer les gènes des races humaines, d'améliorer le potentiel génétique des races humaines.
Ainsi, la science de l'hérédité a été mise au service de cette idéologie de l'eugénisme, c'est-à-dire la perfectibilité de l'humain, Michel Morange ?
Oui, ça a été mis très rapidement au service de l'eugénique, avec des différences d'ailleurs suivant les pays sur lesquels on reviendra sans doute. Mais c'est devenu très vite un outil pour les eugénistes après cette première phase qui était décrite précédemment, où ils avaient plutôt adhéré à un autre modèle d'hérédité. Quand la fusion va se faire avec la génétique, génétique et eugénisme vont aller de pair. Les sociétés savantes, d'ailleurs, étant souvent des sociétés communes d'eugénique et de génétique.
Laurence Perbal, sur cette question-là du couple génétique-eugénisme, alors on a entendu Axel Kahn citer aussi certains personnages, notamment Francis Galton, on peut en parler, né en 1822, mort en 1911, cousin de Darwin, père de l'eugénisme, puisqu'il crée le concept en 1883.
Oui, père de l'eugénisme, et c'est réellement dans une volonté de perfectionner l'humain, et donc dans un contexte où la philosophie naturaliste est très importante, c'est-à-dire que finalement, ce qui se passe dans la nature devient un modèle éthique. Et on doit puiser dans la nature une certaine inspiration pour améliorer l'espèce humaine. Et donc, selon Galton, la sélection naturelle, qui est donc un des concepts centraux dans la théorie darwinienne de l'évolution, ne fait plus son travail en milieu civilisationnel. Il y a une tendance à effectivement protéger peut-être les personnes les plus, ouvrez les guillemets, fragiles de la société. Et donc, le fait d'avoir contrecarré la sélection naturelle en milieu civilisationnel est problématique parce que, donc, selon lui, il y a une dégénérescence progressive de l'espèce humaine. Et sa volonté réellement de contrecarrer cette dégénérescence.
Alors donc, il y a 3 axes principaux que vous mentionnez dans votre livre, Laurence Perbal. Contrôle des mariages, stérilisation forcée ou volontaire, restriction de l'immigration. On va voir ça se mettre en place. Mais il faut préciser qu'en Angleterre, il y a cette peur aussi d'une surpopulation qui pourrait entraîner donc pauvreté, famine. Et aussi, on évoque beaucoup la question de la reproduction différentielle. C'est-à-dire qu'on a peur de cette reproduction plus importante des classes dites inférieures par rapport aux classes dites supérieure.
Oui, effectivement, et c'est aussi une différence intéressante entre ce qui se passe en Angleterre et aux États-Unis, puisque l'Europe est une société de classe à l'époque, et donc effectivement, ce qui tracasse le plus en Angleterre, c'est bien le fait que les classes inférieures sociales donc, se reproduisent davantage que les classes moyennes et supérieures. Et qui donc, il y a une reproduction différentielle qui tracasse les bien-pensants eugénistes de l'époque. Alors qu'aux États-Unis, qu'on n'est pas du tout dans une société de classe, puisque c'est une terre d'immigration, ce qui fait davantage peur, c'est cette intensification de l'immigration au début du XXe siècle.
D'où un eugénisme donc, racialiste.
Oui, tout à fait, puisque de nouveaux immigrants, de nouvelles régions du monde, et effectivement un axe beaucoup plus porté sur les races et les différences entre les races que sur, finalement, les différences liées aux classes sociales, qui est beaucoup plus l'apanage des sociétés européennes et ici notamment de l'Angleterre.
Michel Morange, une réaction peut-être? Alors, c'est vrai qu'en écoutant Laurence Perbal, on pense tout de suite à un certain Charles Davenport, généticien eugéniste américain le plus connu, et qui va justement ouvrir le premier laboratoire d'études en eugénisme, on peut dire ça, en génétique en tout cas, et avec l'eugénisme toujours dans l'ombre.
Oui, et ce qui est d'ailleurs intéressant, puisque ce laboratoire va devenir un des prestigieux laboratoires où se fera la révolution de la biologie moléculaire plus tard. Donc, il y a une continuité intéressante.
Donc, il ouvre le laboratoire en 1910, d'ailleurs, oui. J'ai pas donné le nom, et c'est le laboratoire Eugenics Record Office.
L'objectif de ce laboratoire, c'est de faire de grandes enquêtes pour caractériser des familles dans lesquelles on peut observer, par exemple, la transmission de tares. Et il y a comme ça des, entre guillemets, il y a des productions de généalogie extraordinaires où on a sur 10 générations la transmission d'individus. Donc taré, on voit. Évidemment, à chaque fois, la conclusion va être ces individus, il aurait fallu les empêcher de se reproduire. Ça n'aurait pas coûté cher. Et le fait qu'on ne les ait pas empêchés a coûté et coûte encore à la société aujourd'hui. Donc c'est le message que les sociétés d'eugénique, par exemple, vont véhiculer qui va, d'une certaine manière, gagner à leur cause un public assez large.
Et ce laboratoire va se rendre célèbre justement par des études pour le moins surprenantes. Laurence Perbal, en 1919, une étude sur les officiers de marine. Officiers de marine, leur hérédité et leur développement, d'autres encore plus loufoques et avec toujours ce côté un peu d'une génétique idéologiquement et méthodologiquement orientée.
Oui, il y a en fait toutes les études. Enfin, quand on ici il étudiait les officiers de marine et leur amour de la mer,
oui.
Oui, l'hérédité de l'amour de la mer, on n'est pas réellement dans quelque chose d'idéologique. Ce qui est sous-jacent, c'est qu'il y a vraiment cette volonté de démontrer qu'il y a finalement une hérédité un peu simpliste des caractéristiques humaines, et notamment effectivement ici l'amour de la mer, mais il y a eu des études sur la jalousie, sur le sens de l'humour, sur des caractères qui maintenant sont compris comme quelque chose de beaucoup plus complexe que cela, et il y a une volonté à l'époque de les réduire en quelque chose de plus simple et de plus maîtrisable, parce que si ils sont maîtrisables, alors effectivement on peut en contrôler la fréquence au sein des populations en gérant la reproduction des concitoyens.
Et il y aura d'autres études, alors moins loufoques celle-ci, parce qu'il faut rappeler quand même que les eugénistes, à l'époque, sont très préoccupés par des fléaux, ce qu'on appelle les fléaux, donc à l'époque, donc la criminalité, l'alcoolisme, l'insubordination, la pauvreté, la prostitution, dans cette société où la révolution industrielle est galopante.
Oui, et on a d'ailleurs des études qui sont assez célèbres, des études de famille, comme le disait Michel Morange, ce sont vraiment des études généalogiques sur plusieurs générations qui sont au cœur des recherches menées dans le centre donc de recherche de Davenport. Et on a notamment l'exemple de cette famille Kallikak, qui est caractérisée par une mauvaise branche, entre guillemets, et une branche respectable. C'est-à-dire que l'arrière-arrière-grand-père aurait pris pour maîtresse une femme dite simple d'esprit, avec qui il a eu un enfant illégitime. Et des chercheurs sont allés interroger les descendants donc des deux branches familiales, et en ayant constaté que dans la branche illégitime, il y avait beaucoup plus d'alcooliques, de prostituées, de criminels, etc. Et donc, en faisant complètement abstraction des facteurs environnementaux, l'accent était essentiellement mis sur l'aspect héréditaire et biologique de ces traits.
Et oui, parce qu'à l'époque, Michel Morange, les facteurs environnementaux, on n'en tient pas compte du tout.
Non, on en tient très peu compte. Et c'est même ce qui nous surprend le plus quand on voit effectivement ces familles. C'est que, par exemple, pour montrer la transmission de mauvais gènes, on va aussi bien ajouter les individus qui sont, comme le disait Laurence, alcooliques ou voleurs, mais on va même aussi mettre les individus qui sont pauvres ou ceux qui sont des enfants illégitimes, comme si le fait d'être un enfant illégitime ressortait du même déterminisme génétique. L'environnement, la société, l'éducation n'ont pas leur place dans ces études. On ne voit l'origine de tous ces problèmes que dans leur biologie, que dans la génétique.
Et alors, est-ce qu'on peut dire, Michel Morange, que finalement, ce sont les mathématiques qui vont rendre la génétique respectable ?
Les mathématiques et leur usage dans ce qu'on va appeler la génétique des populations a certainement joué un rôle majeur pour rendre la génétique non seulement respectable, mais même aller au-delà, pour en faire une, probablement la science parmi les sciences biologiques la plus prestigieuse dans ces années-là.
Donc ça arrive entre 1920 et 1945, hein, c'est cette période-là ?
Oui, ça, effectivement, 1920, les premiers travaux des généticiens des populations, et puis ces travaux vont se développer.
Alors Laurence Perbal, on peut parler de Ronald Fisher à ce stade de l'émission, hein, puisque c'est lui qui va mathématiser cette science et travailler, montrer l'importance déjà des facteurs environnementaux, du statut social et de l'histoire des familles, et puis rendre justement la place aux statistiques dans cette science.
Oui, c'est donc un mathématicien, un eugéniste aussi, qui s'intéresse à l'évolution et à la génétique, Ronald Fisher. Et c'est vrai que son apport à la génétique est très très important, puisqu'il a réussi à réconcilier en Angleterre les deux grandes écoles de génétique, qui étaient la tradition donc biométrique et le mendélisme. Puisque comme je le disais plus tôt, le mendélisme s'intéresse aux traits discontinus, tandis que la biométrie s'intéresse aux traits qui ont une variation continue. Et il a montré, pour le dire vraiment simplement, qu'une variation continue peut résulter d'une accumulation de variations discontinues sur différents caractères. Et de cette façon-là, réellement, il a réconcilié par les mathématiques et par les statistiques ces deux grandes écoles qui avaient du mal vraiment à se rencontrer.
Et on parle de lui comme un des fondateurs de la génétique des populations.
Oui, parce qu'à partir de cette réconciliation, bien, il a été possible de faire de la génétique sur des populations, que ce soit des populations de plantes, des populations d'insectes, parce qu'on avait donc une possibilité de quantifier l'hérédité. Et ça, évidemment, c'est très important. Quand on a une volonté d'objectivité, de rechercher l'objectivité, donc de se détacher... ici, pour se détacher de la subjectivité liée aux politiques eugénistes,
oui. C'était très important de gagner en indépendance. Et oui, gagner son indépendance. Il y a un autre pas qui va être franchi, qui est très important à mentionner, Michel Morange, c'est l'étude des groupes sanguins, avec Karl Landsteiner, hein, ce pionnier, ce biologiste et médecin autrichien, qui découvre les groupes sanguins. Là aussi, c'est très important dans cette génétique.
C'est très important, je pense aussi, parce que ça apporte une réponse, au fond, à des observations qui étaient déjà anciennes, qui étaient cette, pas impossibilité, mais le fait que quand on faisait des transfusions sanguines dans l'espèce humaine, il y avait souvent des accidents dont on ne comprenait pas la nature. Et Landsteiner va montrer l'origine de ces accidents, les expliquer par l'existence de ces groupes sanguins. Donc ça montre tout l'intérêt au fond de la génétique pour résoudre une difficulté qui jusqu'alors était sans réponse. Et puis ça va avoir aussi une autre conséquence, c'est qu'on va commencer à comparer la répartition des groupes sanguins dans les différentes populations humaines. Et on va amorcer ces études de génétique populationnelle en essayant de distinguer les différentes populations et différentes races, comme on dit à l'époque, par leurs caractéristiques génétiques. Ce qui, évidemment, en retour, peut renforcer une vision eugéniste, puisque si les différentes populations humaines ne sont pas identiques génétiquement, certaines peuvent être meilleures que d'autres.
Le danger reste toujours là, quand même.
Oui. Hein,
même si on a le sentiment que, à ce stade de l'histoire de la génétique, arrive une nouvelle génération de généticiens. Et d'ailleurs, l'un et l'autre, vous les mentionnez dans vos livres. Hein. Lionel Penrose, par exemple, on pense à lui quand il fait ses études sur la déficience mentale.
Oui, Lionel Penrose, c'est un tournant parce qu'il va s'opposer à ces modèles simplistes de beaucoup d'eugénistes. En particulier, il y avait un psychologue américain qui s'appelait Goddard qui avait proposé un modèle génétique très simple où avec un seul gène, une seule mutation, on expliquait ce qu'on appelait la débilité mentale ou la faiblesse d'esprit. Et donc il faisait rentrer tous les cas de débilité mentale, ce qui en pratique était simplement un QI inférieur à, je crois, 80. ou 70, je ne me souviens plus, la barrière qu'il avait arbitrairement fixée. Et à partir de ça, il expliquait tous les chiffres qu'il observait. Lionel Penrose va montrer que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Il va tout reprendre d'ailleurs, toutes les statistiques travaillées entre 1931 et 1938 sur 1280 personnes interrogées, 6629 par an, retrace plus de 400 histoires de famille. C'est un travail colossal pour montrer que justement les travaux précédents n'étaient pas sérieux finalement.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le travail de Godart a été rétrospectivement critiqué, puisque quelquefois, Godart attribuait le génotype, c'est-à-dire la nature des gènes portés par les individus, pour compléter les observations qu'il faisait sur la transmission. Il disait, tel individu ne peut avoir que telle caractéristique génétique pour que ça marche ainsi. Mais ça n'avait évidemment aucune valeur.
Et finalement, c'est un personnage dont on se souvient parce qu'il a marqué, parce qu'il avait une parole libre, parce qu'il n'hésitait pas à dire les choses de façon virulente. Laurence Perbal, vous le mentionnez dans votre livre, lors d'une leçon inaugurale donnée en 1946 à la chaire Galton, justement, où il dit à propos d'un gène, pour éliminer le gène du stock racial, il faudrait stériliser 1% de la population si les porteurs pouvaient être identifiés. Seul un fou défendrait une telle procédure pour empêcher l'existence d'une poignée d'imbéciles inoffensifs. Et puis il poursuit un petit peu plus loin avec sarcasme et en suggérant que tout futur test génétique concernant les attributs psychologiques commence avec les hommes politiques. Et voici ce qu'il dit. Maintenant que des armes capables de détruire instantanément des populations entières existent, il devient essentiel de s'assurer de l'intelligence et de la stabilité mentale des gens de pouvoir. Laurence Perbal.
Mais oui, c'est vrai que Lionel Perrose fait partie de cette nouvelle génération de généticiens, puisque en fait on constate qu'il y avait les généticiens américains étaient vraiment l'ancienne génération où il y avait cette utopie. L'idée que vraiment la science pouvait améliorer la société et que la science détenait et la nature détenait des clés pour arriver à cela, alors que Lionel Perrose, mais on peut aussi citer Lancelot Ogben, ils sont nés plus tard, ils ont vécu la Première Guerre mondiale, la crise de 1929, et quand tout le monde a évidemment subi comme ça, un retour de flamme d'un point de vue économique, il est difficile de défendre que la pauvreté est d'origine biologique. Et vraiment, il s'est opposé à cette idée qu'il y avait des groupes socialement problématiques, parce que pour lui, une société n'était non pas jugée sur justement, la société était jugée sur la façon dont on traite ses membres les plus faibles et les plus fragiles. Et ça, c'est vraiment un engagement social très important.
Et donc on peut dire qu'à partir de là, l'étude de l'hérédité dans le domaine médical va gagner ses lauriers. Summertime.
What is living is easy. Fish are jumping and the cotton is so Ready?
because your mama and your daddy, oh, they are standing somewhere by. I know they're standing somewhere by. Oh, yeah.
C'était Summertime par Big Mama Thornton, à choix de notre réalisatrice Alexandra Malka. Et c'est la suite de la Marche des sciences sur France Culture, plongée dans l'histoire de la génétique. Et c'est l'objectif du jour en compagnie de Laurence Perbal, docteur en philosophie des sciences. Et elle est chercheure consultante au Centre de recherche interdisciplinaire en bioéthique de l'Université libre de Bruxelles. Et on lui doit le livre Une brève histoire de la génétique, un livre paru chez Hermann. Et à nos côtés, Michel Morange, biologiste, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, également à l'ENS, directeur du centre Cavaillès et également membre de la République des Savoies. Et je mentionnerai ce livre tout récemment édité dans la collection Poinceuil, Michel Morange, Une histoire de la biologie. Vous avez compris, on retrace cette histoire longue de la génétique et puis son rapport aussi à l'eugénisme et parfois, vous allez l'écouter dans un instant, dans des pays que l'on ne soupçonne pas forcément. Voici un document daté du 25 août 1997, le reportage de Jean-Paul Pouron sur Intersoir.
Deux lois eugénistes, votées respectivement en 1934 et en 1941, ont permis pendant plus de 40 ans aux autorités suédoises de stériliser de force quelques 60 000 Suédois. Cette stérilisation eugénique légale débute en 1935 pour s'achever en 1976 dans l'indifférence la plus totale. Ce sont les sociodémocrates qui, les premiers, votent la loi sur la stérilisation légale, et ce sera le gouvernement de coalition qui, en 1941, la complétera en loi de stérilisation eugénique, ajoutant donc aux raisons d'hygiène sociale des raisons raciales pour pallier le péril génétique qui menace l'espèce et améliorer la qualité des populations. La dernière victime de la stérilisation forcée le fut en 1961, les pics de stérilisation ayant eu lieu juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1946 et s'étant poursuivi à un rythme soutenu dans les années 50. C'est au ministre social-démocrate des Affaires sociales que l'on doit la réactualisation du dossier. Madame le ministre estime en effet que la question de l'indemnisation des personnes stérilisées de force doit aujourd'hui être examinée par une commission ministérielle. Durant les 20 ans qui ont suivi l'abrogation de la loi, aucun gouvernement n'a voulu reconnaître le bien fondé d'un dédommagement aux victimes, ne voulant pas considérer le caractère inhumain de cette loi barbare.
France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau.
Laurence Perbal, je me tourne vers vous, parce que vous nous dites bien dans votre livre, hein, l'eugénisme s'est beaucoup implanté dans des pays majoritairement protestants, donc en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse et dans les pays scandinaves. Et ces informations, parfois, bien ressortent hein, des années plus tard. Là, c'est un document de 1997 qui concerne la Suède.
Oui, pourquoi dans les pays protestants? Parce que, contrairement à, finalement, au catholicisme, la religion protestante est vraiment une religion de la proactivité et du travail. Donc il y a cette idée qu'on peut s'améliorer par l'effort personnel, la volonté personnelle et le travail sur soi. Donc vraiment avec une volonté d'action. Tandis que la religion catholique est plus contemplative. Et notamment, l'Église catholique a toujours condamné toute intervention artificielle qui viendrait influencer la reproduction humaine.
Michel Morange, sur cette question-là, justement, ces pays, finalement, que l'on découvre hein, des années plus tard, eugénistes, on peut rappeler qu'il faudra attendre les années 1970 hein, pour mettre définitivement fin à ces lois eugénistes.
Oui, et ce qui est surprenant, c'est quand on regarde le nombre, par exemple, de stérilisations forcées dans les pays comme la Suède, la Finlande ou la Norvège, c'est que rapporté à la population de ces pays, qui n'est pas très importante, c'est un pourcentage plus élevé qu'aux États-Unis, qui pourtant souvent sont cités comme le pays où la stérilisation forcée a été mise en œuvre.
Et oui, parce que je rappelle les chiffres, donc 30 000 personnes stérilisées aux États-Unis, alors que là, on est à 60 000 en Suède. Alors, en Allemagne, 400 000, mais pour une autre raison. Hein. L'Allemagne des années nazies a été tristement célèbre. On pense aussi à Joseph Mengele à Auschwitz, à partir de 1943, qui fait ses expériences. Et c'est vrai que, d'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, hein, longtemps, la génétique humaine va rester une discipline maudite hein, en Allemagne.
Ce qui peut-être expliquer, d'ailleurs, le cas suédois en partie, c'est que la Suède a été un pays neutre pendant la guerre. Et neutre, avec une certaine sympathie pour l'Allemagne, de beaucoup de ses habitants, mais neutre. Et elle n'a pas connu, au fond, le choc de la libération, de l'ouverture des camps et de la découverte de ce qu'avait fait l'Allemagne. En tout cas, pas comme les pays occupés ou comme l'Angleterre et les États-Unis. Donc, il est probable qu'au niveau des populations, on a pu continuer à pratiquer des mesures eugéniques dans un pays comme la Suède, alors que c'était devenu difficile, pas immédiatement, mais tout de même beaucoup plus difficile dans un pays comme les États-Unis, par exemple.
Et la France dans tout cela ?
Alors la France est un cas très intéressant. Donc c'est un pays plutôt de tradition catholique, ce qui explique déjà une certaine méfiance vis-à-vis de l'eugénique, mais il y a eu plus que ça. Il y a eu un élément non scientifique, un élément scientifique. Le premier, c'est la peur que les Français ont eue d'une dépopulation. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu une saignée énorme d'hommes jeunes et ça s'est traduit effectivement par une baisse des naissances après la Première Guerre mondiale. Et donc le projet eugéniste qui était d'empêcher certains individus de se reproduire est apparu comme absurde devant l'idée qu'il fallait des enfants. Il valait mieux des pas très beaux enfants que pas d'enfants
du
tout.
Mais repeupler la France.
Et repeupler la France. Donc ça c'est la première raison. Et puis la deuxième est intéressante parce qu'elle est scientifique. Et d'une certaine manière c'est une mauvaise raison, mais elle a rendu un grand service à la France. C'est que si, comme on le disait tout à l'heure, par exemple Villemorin a bien accueilli la génétique, ça n'a pas été le cas du milieu académique. La génétique a été longtemps considérée comme ne s'occupant que des caractères secondaires. Donc, par exemple, la couleur des ailes des mouches, mais d'accord, ça c'est contrôlé par des gènes, mais pas les caractères fondamentaux des organismes. Et puis surtout, la France n'avait pas bien accueilli le darwinisme parce qu'elle préférait une autre théorie de l'évolution, le lamarckisme, dans laquelle...
Cocorico, parce que Lamarck a été français, donc c'est vrai que face à Darwin, il y a quand même aussi un petit peu cet enjeu-là.
Oui, alors, il y a eu... c'est un lamarckisme aussi un peu modifié par rapport à Lamarck.
Le néo-lamarckisme.
Oui. Mais qui disait qu'on pouvait, par l'environnement, modifier les organismes, et que c'est probablement comme ça que l'évolution s'était faite. Alors, ça va conduire à des choses très curieuses. En France, effectivement, on ne va pas mettre en œuvre de mesures de stérilisation forcée, même sous le régime de Vichy.
Même s'il y aura des lois racistes, des lois...
Mais qui ne vont pas aborder cette question-là.
Oui.
Mais par contre, on a l'idée qu'en améliorant, par exemple, l'environnement des nouveau-nés, les premières années de la vie, on va pouvoir éviter beaucoup de problèmes. Le milieu, l'amélioration du milieu, l'environnement...
Donc l'hygiénisme,
c'est une poursuite de l'hygiénisme. Et le paradoxe, c'est que le président de la Société d'Eugénique française va être le père de la puériculture.
Laurence Perbal, en tout cas, par rapport à la France, et même d'une manière générale, on peut dire qu'après 1945, donc dans les années 50, on voit la génétique humaine devenir un domaine de recherche mondialement reconnu. C'est vrai qu'il y a aussi l'ère nucléaire, donc on va travailler sur les mutations génétiques suite aux radiations. Enfin, il y a un boom. Et puis la France, dans tout cela, va voir aussi des grands noms faire avancer nos connaissances, comme par exemple Jérôme Lejeune, le professeur Lejeune, sur les chromosomes, et notamment, et c'est lui qui va découvrir le mongolisme avec le chromosome 21. On pense au prix Nobel qui a salué les travaux de Jacques Monod, François Jacob, André Lvoff à l'Institut Pasteur, ce prix Nobel de médecine en 1965. On va découvrir l'hélice ADN. Enfin, il y a vraiment ce pas de géant franchi, la cartographie des gènes. Et en même temps, donc aujourd'hui, on sent tout ce potentiel qui existe de par le monde grâce à la génétique, mais on a le sentiment d'être toujours confronté à des inquiétudes, des risques. L'eugénisme reste dans l'ombre, on peut dire ça, Laurence Perbal ?
Oui, c'est vrai, parce que il y a toujours un gros problème dans la société actuelle, un gros problème, bon, c'est peut-être un grand mot, c'est ce danger de conformisme social. On a quand même du mal à accepter d'être différent des autres, ou à accepter les différences en général. Et quand maintenant on va être capable de connaître notre identité génétique, on peut effectivement faire séquencer notre ADN, savoir à quelle maladie nous sommes potentiellement sujets, et décrire nos caractéristiques physiques notamment. Il y a cette idée que comme on a cette connaissance, on va pouvoir agir sur cette connaissance. Et donc ce risque d'aller toujours vers le plus beau, le plus intelligent, le plus fort. Et donc, derrière ça, cette idée d'amélioration, hein, qui est à la base, effectivement, de l'eugénisme. Donc, elle prend une forme différente, qui est un eugénisme libéral, privé, où maintenant on dit, voilà, ça fait partie de l'aspect privé, ce sont les familles qui décident. Et cet eugénisme privé, il est né de tous les débats sur la légalisation de l'avortement. Évidemment, à partir du moment où on savait identifier que le fœtus était atteint d'une maladie génétique grave, eh bien, il y a eu cette question. Est-ce qu'on autorise ou pas les femmes à avorter? Et tout ça, évidemment, conduit à des questions eugéniques aussi.
Michel Morange, sur ces questions-là, hein, je disais qu'aujourd'hui, on a une cartographie des gènes formidable. Je ne sais pas si on est qu'au début, hein, d'ailleurs, vous allez nous dire, parce qu'on a découvert l'existence d'une grande variation génétique au niveau des séquences d'ADN. Un nombre croissant de maladies génétiques sont identifiées. C'est vrai qu'on sent qu'il y a là le monde du possible pour soulager aussi. On pense par exemple au professeur Fischer qui a été un des premiers à pouvoir libérer des enfants bulles de leur bulle, justement. Donc toutes ces avancées, grâce à la génétique et en même temps ses craintes aussi parce que il y a la fameuse carte génomique possible, donc avec cette personnalisation aussi de la médecine.
Oui, et je crois que le danger est encore plus grand aujourd'hui qu'il n'aurait été même il y a un ou deux ans avec ces nouveaux outils dont on parle tant dans les médias qui sont les outils d'édition du génome, qui sont de nouveaux moyens pour couper le génome à des endroits précis et qui rendent beaucoup plus facile et précise la modification du génome, par exemple l'inactivation d'un gène ou le remplacement d'une copie altérée, mutée par une copie normale. Donc ça a donné, ces nouvelles technologies donnent un boom à ces projets à la fois médicaux, corriger des maladies génétiques, mais aussi à d'autres projets dont parlait Laurence Perbal, qui sont les projets d'améliorer l'espèce humaine, par exemple, à prolonger la durée de vie et puis augmenter certaines capacités. Donc on est, à un moment critique où une réflexion éthique et une discussion éthique au niveau des sociétés va s'imposer pour savoir ce qu'on veut faire de ces nouveaux outils. Est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on ne veut pas faire?
Même si ces comités d'éthique existent déjà hein, dans différents pays et depuis longtemps. Laurence Perbal, dans la conclusion, je crois, de votre livre, vous dites qu'un présent peut être éclairé par l'histoire. Votre regard, justement, par rapport à ce que vient de dire Michel Morange?
Oui, tout à fait. On a des nouvelles technologies à disposition, on en apprend tous les jours davantage sur nos gènes, sur la façon de les manipuler aussi. Et même si effectivement on n'est plus dans un eugénisme politique, parce qu'il y a une grande méfiance par rapport à tout ça, justement au regard de l'histoire, il y a toujours une réflexion à avoir par rapport au risque de dérive, même si c'est le fruit d'une décision personnelle, hein, puisque maintenant, comme je le disais, l'eugénisme libéral, c'est ça, c'est de dire que finalement, on a le choix, enfin, chacun doit faire ses propres choix, dans un certain cadre éthique, évidemment. Mais ce n'est pas parce que c'est libéral qu'on doit tout accepter, et il faut rester attentif, et effectivement, au regard de ce qui s'est passé dans le passé, rester attentif et continuer à réfléchir là-dessus sans évacuer les questions qui paraissent dérangeantes.
Michel Morange, vous qui êtes biologiste, le mot de la fin, malgré tout, avec ces possibilités données par la génétique hein, pour la science de demain, est-ce qu'il y a quelque chose que vous espérez voir un jour peut-être se réaliser?
Difficile question. Je crois qu'on ne peut jamais anticiper prévoir le futur. Mais en tout cas, je pense, comme vous le disiez, que l'histoire, elle ne peut pas nous apprendre à gérer le futur parce qu'il est à chaque fois différent. Mais en tout cas, elle ne donne pas donc des leçons. Mais elle permet au moins de voir des enjeux ou de voir pourquoi certains mauvais choix ont pu être faits à des moments, pourquoi on a pu commettre aujourd'hui ce qui nous apparaît comme des crimes. Et donc, à partir de là, être sans doute plus attentif, plus vigilant.
Exactement. C'est le mot, vous voyez, que vous aviez également dans la bouche. Michel Morange, merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Une histoire de la biologie, donc désormais disponible en collection Point Seuil. Et merci Laurence Perbal. Je rappelle également le titre de votre dernier livre, Une brève histoire de la génétique, un livre paru chez Hermann. Et puis à conseiller aussi à nos auditeurs, le beau livre de la biologie, de l'origine de la vie à la génomique de Michael Gérald, paru chez Duno. Et puis restez avec nous parce que la suite va vous intéresser. Il va s'agir d'ADN fossile.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire, toujours sur ce thème, donc de la génétique, et avec cette fois-ci, comme je l'annonçais, l'ADN fossile, des chercheurs et des histoires scientifiques dignes, parfois, de romans fiction.
Parce que là, on a une belle épaisseur de... Ah, c'est magnifique, on a un centimètre de derme, quoi.
Ah,
regarde ça, regarde l'aspect du derme, quoi. C'est un demi-centimètre, ou un gros, presque un centimètre de gras, quoi. C'est incroyable.
Il n'a pas besoin de Botox, il est déjà plein de gras, lui, il a...
Par exemple, sur ce gras, quelles analyses peuvent être menées maintenant ?
D'un point de vue histologique, de la structure des cellules qu'on va pouvoir y retrouver, évidemment. D'un point de vue moléculaire, pour essayer de comprendre quelles sont les molécules qui constituent ce gras. En quoi est-ce qu'on peut comparer ça aussi avec la structure de la peau quand même, qui est très différente chez un éléphant d'aujourd'hui. Donc ça va quand même nous apprendre des tas de choses sur l'adaptation si particulière des mammouths laineux à un environnement de grand froid auquel ne survivraient pas nos éléphants d'aujourd'hui.
Bonjour Régis De Bruyne.
Bonjour.
Alors vous êtes paléogénéticien au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, dans le service systématique moléculaire. Et on vient d'entendre un extrait d'un reportage de Sophie Bécherel. C'était le 31 août 2010 pour France Inter. Et tout simplement, vous étiez, vous et d'autres scientifiques, en train d'autopsier ce bébé mammouth appelé Chroma, découvert en 2009, hein, si je ne me trompe pas, dans le Grand Nord sibérien, dans les glaces de Yakoutie, et donc qui est mort il y a plus de 50 000 ans.
Plus de 50 000 ans, celui-là, oui.
Donc une autopsie qui avait l'air d'être assez exceptionnelle quand même.
Oui,
hein,
c'est un moment assez incroyable parce que c'était que la deuxième fois au monde qu'on avait l'opportunité de réaliser une autopsie sur non pas un fossile de mammouth, mais bien un cadavre, ni plus ni moins qu'un cadavre conservé très longtemps dans un congélateur naturel, le sol gelé de Sibérie.
Et donc qui a été découvert parce que on est dans cette période de dégel.
Oui, disons que les découvertes s'accélèrent effectivement parce qu'aux très hautes latitudes, on voit un dégel massif qui s'accentue d'année en année et que ce dégel massif du sol gelé révèle de plus en plus de ces restes de mammouths dont on sait que le sol est pétri en fait.
Et donc ça veut dire que grâce là, pour le coup, je crois à la vigilance d'un habitant, les scientifiques ont été prévenus, mais ça veut dire que des trésors ancestraux peuvent disparaître parce que le jeune mammouth, il faut le rappeler, je crois, avait commencé à être attaqué par des animaux sauvages.
Oui, tout à fait. Et à la limite, la pression des animaux sauvages, aujourd'hui, elle est presque moins dangereuse pour le chercheur que je suis que d'autres pressions. Par exemple, la pression des hommes. Il faut savoir, par exemple, que ce trésor dont vous parlez, c'est une véritable manne financière. Puisque l'ivoire de mammouth n'est pas soumis au même problème juridique de vente à l'international que l'ivoire des éléphants. Et donc, c'est un produit qui peut se vendre en fonction de la période, 600 à plusieurs milliers d'euros le kilo. Sachant qu'une défense de mammouth, ça peut peser entre 15 et 60 kilos. Vous voyez, on peut vite se faire un beau salaire avec une défense. Et donc, ça attise des convoitises, évidemment. Et aujourd'hui, le chercheur, il est pris dans une course effrénée avec les autres personnes qui ont envie, en fait, de profiter de cette manne.
Et notamment dans ce Grand Nord sibérien, impossible à surveiller de toute façon. Ça, c'est complètement inconcevable. Alors, quand vous avez travaillé sur l'autopsie de ce bébé mammouth Chroma, Régis De Bruyne, finalement, qu'est-ce que ça a donné les résultats? Parce que, bon, on parlait d'ADN fossile, on parlait aussi de la possibilité peut-être de retrouver, enfin, il y a toujours ce graal pour certains, et en même temps, ça peut être un véritable danger de ressusciter des espèces éteintes.
Oui, alors 2010, c'était il y a très très longtemps, si on veut, en termes génétiques, c'était une autre époque, entre guillemets. Aujourd'hui, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses au cours de ces 6 dernières années qui ont fait avancer la recherche dans le domaine de la génétique et de la génomique. Mais en 2010, effectivement, il y avait plusieurs ambitions sur cette carcasse, essayer de voir effectivement quel était l'état de la préservation au niveau moléculaire de cette très très jolie carcasse. Il faut savoir que quand on a effectivement autopsié ce bébé, on a retrouvé le lait de sa mère à l'intérieur de son estomac. Donc, était-on capable capable de récupérer aussi des molécules de l'hérédité de ce mammouth? Oui, évidemment, en fait, de l'ADN, il en avait un peu partout, Chromain. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était une des premières fois où l'on pouvait justement essayer de récupérer de l'ADN dans différents tissus. Pourquoi faire cela? Parce que la possibilité de travailler sur différents tissus, ça nous permet de travailler au-delà du génome. Le génome, le génome du mammouth, c'était un gras dans les années 2000. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Il a été séquencé, reséquencé. On va dire qu'il est presque mieux connu que le génome de l'éléphant. Le prochain Graal, c'est comment ce génome fonctionne-t-il? Comment les cellules de mammouth faisaient-elles pour fonctionner différemment des cellules d'éléphant avec un équipement génétique très très semblable? En fait, il faut savoir qu'un mammouth et un éléphant, ce sont deux animaux qui sont à peu près aussi proches qu'un chimpanzé et un homme. Et donc, on est à peu près dans la même problématique que le chimpanzé et l'homme. Comment est-ce que l'expression des gènes, la régulation de cette expression des gènes, explique une différence aussi flagrante entre un mammouth et un éléphant qu'entre un chimpanzé et un humain?
Et alors, vous dites, c'est vrai que depuis 2010, alors 2009, sa découverte, 2010, l'autopsie, la science, en à peine 6 ans, hein, a fait un bond en avant. Mais en même temps, qu'est-ce que Chroma vous a appris quand même? Il nous a appris.
Alors, Chroma nous a permis, pour le coup, c'était vraiment le premier, nous a permis de travailler donc sur ces tissus différents et puis de révéler un ADN d'extrêmement bonne qualité, ce qui est une avancée, mais qui aujourd'hui finalement n'était pas forcément la clé pour finir le génome d'un mammouth. Aujourd'hui, pour finir le génome des mammouths, il fallait surtout avoir beaucoup d'argent plutôt qu'un mammouth de très bonne qualité. Des mammouths, il y en a tellement aujourd'hui qu'on peut faire son marché dans le Grand Nord. Donc c'est pas vraiment sur le strict point de vue de la génomique individuelle que Chroma était intéressant. C'était vraiment sur la capacité. C'était une des seules carcasses à ce jour à avoir préservé aussi bien les cils de ses yeux que justement ses yeux eux-mêmes, son foie, ses reins, bref, une opportunité pour travailler sur différents tissus. Et effectivement, même une caractéristique qui était jusque-là inédite, une bosse de graisse qu'on avait vue uniquement chez un autre bébé qui s'appelle Liuba, au niveau de la nuque. Cette bosse de graisse, c'est un organe très intéressant qui régresse quand les mammouths grandissent. Et elle sert en fait de réserve de chaleur pour protéger le cerveau de ce petit bébé mammouth contre le froid quand il est petit. Cette graisse brune, elle régresse à l'état adulte. Voilà, ces observations-là, elles étaient toutes neuves.
Donc pour une meilleure connaissance de ces espèces disparues, leur façon, enfin, ou d'évoluer, leur fonctionnement, enfin voilà, essayer au moins d'accroître nos connaissances, mais pas forcément dans le but de chercher à les faire revivre.
Non,
c'est ça ?
En fait, là encore, effectivement, c'était la quête de la cellule en état de fonctionner, qui était celle de certains autres collègues à l'époque, à l'intérieur d'une carcasse de mammouth qui est là depuis plus de 50 000 ans dans le sol gelé. Ce Graal-là, qui n'est pas le mien pour le coup, il a abouti à rien du tout de probant, et c'est pas vraiment surprenant. C'est-à-dire que là encore, il y a une espèce de naïveté d'une certaine façon, ou de complicité d'un certain nombre de collègues vis-à-vis de ces problématiques-là. On ne va pas retrouver une cellule de mammouth en état de fonctionner dans une carcasse de mammouth, si bien préservée soit-elle.
Ah oui, parce qu'il faut préciser que les cellules animales, en plus, sont beaucoup plus fragiles par rapport à la conservation dans la glace, et alors avec les années qui courent en plus, ouais, par rapport aux cellules végétales.
Tout à fait. Et puis c'est un mauvais congélateur finalement, le sol gelé de Sibérie, c'est qu'un congélateur qui est à moins 15, moins 20 degrés. Alors effectivement, ça améliore très largement la conservation, la momification des spécimens et leur conservation à travers le temps, mais pas au point de faire qu'on puisse juste d'un claquement de doigts comme ça réactiver une cellule et espérer la faire grandir sur une boîte de pétri. Non, c'est pas aussi simple. Et effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que cette espèce d'objectif de clonage de mammouth qui court depuis plus d'une quinzaine d'années chez certains collègues, il n'a pas du tout avancé d'un pouce finalement, et pas plus avec Chroma qu'avec les autres carcasses, tout simplement parce que la cellule vivante de mammouth, elle n'est pas là dans le permafrost, dans le pergélisol, pardon, et a priori, on n'a aucune chance de la trouver là-dedans.
Mais par contre, est-ce qu'à ce jour, on a déjà réussi à ressusciter des espèces disparues, alors peut-être disparues depuis moins longtemps?
Oui, tout à fait. On sait effectivement, on sait très bien déjà rendre la vie à une souris qui a été congelée dans les années 70-80. Et hop, on la sort du congélateur avec quelques manipulations, alors que cette souris n'a pas été congelée dans de bonnes conditions. On ne lui a pas donné d'antigel, entre guillemets. Mmh. Et bien, on est capable de rendre la vie à ces organismes-là. Donc oui, ça a été fait notamment avec une espèce de bouquetin. Et puis, il y a d'autres pistes pour des espèces soit éteintes récemment, comme le loup de Tasmanie, ou des des espèces pas encore éteintes, mais dont on sait qu'elles vont disparaître incessamment, comme le diable de Tasmanie, par exemple.
Donc c'est préserver la biodiversité, là aussi. C'est une autre démarche.
Oui, mais c'est une démarche qui est un peu, un peu stérile, en ce sens que rendre la vie à un seul de ces organismes-là, ça ne nous fait pas avancer beaucoup sur notre capacité à
le garder en vie.
Oui,
c'est la question de la survie de ces espèces.
Ce qu'on sait assez bien aujourd'hui, on le sait par exemple dans le cas des guépards, qui étaient en danger imminent d'extinction il y a à peu près 20 ans. En dessous d'un certain effectif dans les populations naturelles, la diversité génétique de ces populations n'est plus suffisante de toute façon pour assurer leur survie à long terme. Et donc ça veut dire qu'il faut plusieurs milliers à dizaines de milliers de reproducteurs pour pouvoir assurer la pérennité d'une espèce, pas simplement être capable d'éventuellement rendre la vie à un spécimen qui finirait dans un zoo ou dans un musée.
Donc il y a aussi ces questions éthiques, hein. A-t-on le droit de le faire? Dans quel but? Et est-ce que ça a vraiment du sens finalement? Ça vous anime ça aussi?
Oui, tout à fait. Je crois que ce débat-là, on l'a avec la plupart des collègues. C'est un peu un débat entre la partie enfantine de notre cerveau et la partie plus adulte et plus citoyenne, sans doute, qui consisterait la première à nous dire ce serait génial de voir un mammouth se promener dans la toundra sibérienne.
Oui, un dinosaure un peu moins.
Le Jurassic Park. Ou alors il faudrait choisir le bon. Et en même temps, la partie adulte et citoyenne qui consiste effectivement à plus placidement observer la nature d'aujourd'hui et les difficultés auxquelles elle fait face, et de se dire, le mammouth, de toute façon, il n'a plus sa place sur Terre aujourd'hui. Ce serait très difficile de lui retrouver un environnement vraiment favorable à son épanouissement.
Et alors, juste pour finir ce temps sur l'ADN fossile, Régis de Bruyne, et puis pour nous donner peut-être un petit peu l'eau à la bouche, depuis Chroma, vous travaillez sur quoi maintenant?
Alors, depuis Chroma, figurez-vous qu'on travaille sur plein d'autres mammouths. En fait, il se trouve que mammouths, on en trouve tellement.
Vous êtes resté mammouth quand même. Hein.
Oui, pas seulement. Enfin, c'est ma recherche de fond personnel, mais on a travaillé sur plein d'autres groupes. Ma recherche, elle consiste à essayer de trouver de l'ADN là où on a du mal à en trouver. Donc, on peut aller en rechercher, par exemple, au fin fond des mers. Ça a été le cas il y a 2 ans sur une mission en Afrique du Sud pour essayer de retrouver de l'ADN de ces lacantes dans des grottes où ces éléphants vont passer les journées. Ces éléphants, ces poissons.
Ces poissons.
Vous voyez, je suis complètement biaisé.
Ah, oui.
Ces poissons vont passer la journée. Et donc des plongeurs allaient à ces très grandes profondeurs, récupéraient de l'eau. Et puis la question, c'était est-ce qu'on est capable de récupérer l'ADN de ces poissons, même quand ils ne sont pas là, juste à partir de l'eau de mer? Et bien oui, finalement l'ADN, on se rend compte que c'est une molécule qui est assez résiliente. C'est pour ça qu'on est capable de la récupérer sur des carcasses qui ont éventuellement plus de 50 000 ans jusqu'à aujourd'hui, on sait, au moins 1 million d'années. Hein, l'ADN ancien, ça permet de remonter au moins aussi longtemps que cela. Puis ça permet aussi de remonter, pas forcément loin dans le temps, mais d'atteindre d'autres extrêmes.
Eh bien, merci Régis de Bruyne. Vous revenez quand vous voulez pour nous raconter justement tout ce que vous découvrez de formidable. Et j'en profite pour signaler l'exposition Le Magicien d'Os qui commence mercredi 16 mars dans les galeries d'anatomie comparée de paléontologie du Muséum, et puis dans le Jardin des Plantes aussi, du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Et donc qui propose des sculptures de Quentin Garrel. Je crois que c'est assez impressionnant. Vous avez jusqu'au 12 septembre pour vous y rendre. Et puis bien sûr, toutes les informations, les liens sont à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr. Faire à la page La Marche des Sciences. Vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, il ne faut pas vous en priver, nous suivre sur Twitter et sur la page Facebook. Et c'est la fin de La Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. Émission préparée avec Catherine Donnet et Anaïs Morales pour les archives, à la documentation sonore de Radio France, Odile Jossel, à la réalisation Alexandra Malka et à la technique aujourd'hui, Vincent Ronet. La semaine prochaine, l'aventure d'un fascinant programme de recherche qui couple histoire et médecine sera au programme de La Marche des Sciences. Son nom, Silicosis, quand des historiens se mettent au chevet de malades. Et nous serons avec l'historien Paul-André Rosenthal, la sociologue Catherine Cavalin et le professeur Marie-Christophe Boissier, qui est chef du service de rhumatologie de l'hôpital Avicenne. C'est étonnant, vous allez le voir. Et demain, autre rendez-vous de Culture Science, Anne Paraté à 16h, Michel Albergantier, Sciences Publiques, qui dans cette semaine spéciale Révolution génétique posera la question suivante. Faut-il poser des limites éthiques à la modification de l'ADN? Et puis dans un instant, à 17h, place à Hervé Gardette pour la suite de votre journée sur France Culture.